bienvenue à la French Connection, épisode 143, premier épisode d'avril. Je commence par un peu m'excuser sur la vitesse ou l'absence de vitesse à laquelle je livre les épisodes de la French Connection, puisque je suis dans un contexte très particulier, puis j'imagine que j'ai plusieurs de mes collègues en sécurité de l'information qui sont submergés par les travaux exécutés parce que les organisations ont décidé de rouler à une vitesse qui est complètement folle par rapport à ce qu'on est habitué. Et c'est très exigeant. Cela étant, à tous mes collègues, puis je fais semi-chemespog, faites attention à vous à travers tout ça parce que même si c'est exigeant, même si on vous demande beaucoup de vous, n'oubliez pas de penser à vous à travers ça parce que si on vous brûle à travers toutes ces requêtes un peu folles et complètement extravagantes, mais quand même revalorisantes jusqu'à un bon point, parce que dans mon cas, oui, faites attention parce que si vous brûlez, vous ne servirez plus à rien et à vous-même, vous serez complètement déphasé par rapport à ce qui se passe à l'univers. Bref, mon cas est une chose, puis j'ai beaucoup d'apprentissage par rapport au travail. Cela étant, commençons avec les Shameless Pug cette semaine, et avant, de toute façon, bref, je pense que vous avez compris, je suis tout seul. Mes collaborateurs étant occupés à autre chose aujourd'hui, et j'ai compris parce que c'est plutôt moche la météo ces derniers temps, donc première belle journée depuis déjà certains jours, c'est cela. Donc, Shameless Pug, COVID-19 est encore un état qui, dans lequel on vit de façon très importante. Ça module beaucoup nos vies, ça module beaucoup les choses. Comme ça fait déjà quelques semaines que nous commençons à être dans cet état-là, et ça s'annonce pour durer encore au moins quelques semaines. Donc, les gens commencent à mieux absorber l'état des choses. J'en profite pour relater le fait que le Hackfest, sur le Slack du Hackfest, il y a un channel pour toutes les notions de santé mentale. On arrive beaucoup dans le quotidien, mais la réalité, c'est que quand dans la solitude, un moment de confinement dans lequel on est, on peut avoir des moments de détresse. C'est moins drôle. Donc, c'est très important d'arriver dans un contexte où des gens peuvent écouter et peuvent nous accompagner à travers ce genre de choses-là. Je me constate excessivement chanceux d'être bien entouré. Donc, si vous ne l'êtes pas aussi autant que je le suis, allez sur ce channel-là, c'est très important. Vous allez avoir trouvé des gens qui vont vous écouter, qui ne vous jugeront pas, parce que malgré ce qu'on peut socialement en penser, l'instabilité des associés au fait d'être confinés sont bien réels, c'est pas des fictions, c'est pas des gens faibles. On est tous des gens forts, mais on est interpellés par différents éléments. Et en ce sens-là, si vous avez du monde, vous savez qu'ils vivent seuls, faites des visios, je le fais avec des gens dans mon entourage que je sais qui vivent seuls, je le fais avec des collègues. Donc, c'est très important de collaborer et de se donner un peu de visuel, visage humain, parce que, étant des humains, on est très attachés à cette espèce de présence visuelle. Et pour tous les gens qui font beaucoup de télétravail actuellement, le fait de juste parler au téléphone est insuffisant. Le fait d'avoir des visios ajoute une espèce de contexte beaucoup plus humain à la situation dans laquelle on vit. Donc, ça nous aide un peu à passer à travers ça et de se sentir un peu moins seul dans notre situation. Justement, la FES organise aussi une fois par semaine un weekly visio qui est français-anglais, qui permet aux gens d'aller discuter, d'aller parler, au moins de socialiser un minimum, puisqu'on est interdit de socialiser dans la vraie vie. Donc, par ça, je trouve que les informations sont présentes. J'en parle beaucoup parce que je trouve ça excessivement important. J'ai des gens autour de moi qui ont eu des petits moments de détresse. Je suis très sensible à ça. Ne laissez-vous pas submerger par ça. C'est pas une situation qui est permanente, même si c'est difficile pour le moment. Donc, c'est cela. Donc, puis dans la chambre, stay the fucking home. S'il vous plaît, respectez les règles qui sont données. L'aspect subversif d'aller pas respecter les règles dans ce cas-ci, on n'a aucune notion de subversif parce que vous créez un dommage à vous et aux autres. Puis la notion de subversif n'a rien à voir avec le fait de créer des dommages aux autres êtres humains, mais juste de contester les règles qui nous semblent absurdes. Dans ce cas-ci, c'est des règles qui ne sont pas absurdes, qui servent à sauver des vies humaines, Il n'y a pas de conspiration. Donc, s'il vous plaît, respectez-les. Et le plus vous les allez les respecter, moins on va avoir de conséquences de policières que l'armée va imposer. Chez nos amis européens, d'autres vivent plus des conséquences plus importantes. Au Québec et au Canada, on est encore chanceux. On a encore une capacité limitée, mais on a une certaine capacité encore de se déplacer. S'il vous plaît, soyez responsable dans cet usage-là, justement pour pas qu'on tombe dans des contextes où on doit avoir des permis pour sortir de la maison, qu'on se fasse arrêter, questionner constamment, qu'on ait des contrôles constants. Donc, il y a un équilibre à avoir. Donc, si on est capable, comme société, de respecter ces règles-là, ça va juste bénéficier l'ensemble des gens et c'est pas, on veut pas brimer notre liberté individuelle, on veut juste protéger l'ensemble de la société et plus vite on va respecter ces règles-là, plus vite on va en sortir. Donc, commençons avec les nouvelles. Encore une fois, on parle énormément de notions qui sont relatives au télétravail, au confinement, ainsi de suite. Puis je refais encore, je suis encore fasciné à quel point il y a beaucoup, beaucoup d'experts en télétravail qui ont émergé depuis le début du confinement. Des gens qui faisaient complètement autre chose avant, mais qui maintenant sont rendus des experts en télétravail ou même des experts en sécurité du télétravail. Ce qui est encore une notion encore plus farfelue, puisque tous ces gens-là étaient, jusqu'à pas très longtemps, juste des experts en sécurité, mais qui n'avaient pas d'expertise en télétravail. Et en ce sens-là, moi, j'ai aucune expertise puis je me prétends rien là-dedans, mais des gens comme Patrick, qui est énormément présent au podcast, qui est cofondateur du Hackfest. Lui, ça fait 6 ans qu'il ne fait que ça. Fait qu'à mon sens, il est probablement plus le titre d'expert en télétravail que je pourrais jamais avoir parce qu'il a déjà 6 ans d'avance sur moi. Donc, assurez-vous, si vous avez des gens qui vous sollicitent ou que vous voulez consulter, assurez-vous qu'ils ont une expérience de vie parce que le fait d'avoir la théorie, d'avoir la pratique, c'est deux choses. Quand on le vit, le télétravail, et là, je le vis et je peux constater que c'est pas tant facile que ça. Tu sais, c'est facile de dire qu'on travaille une fois de temps en temps, une journée par semaine en télétravail, on travaille le soir, des choses comme ça. C'est très facile à dire. On est dans la réalité de travailler constamment pendant plusieurs semaines de façon continue à la maison. C'est autre chose. Puis en ce sens humainement, mais technologiquement aussi parlant, parce que les organisations au Québec, Canada, ont une expérience beaucoup moindre que certaines grandes organisations américaines ou mondiales qui, eux, font, c'est leur modèle d'opération quotidien dans lequel tout leur infrastructure est déjà réfléchie comme ça. Ils ont plusieurs années d'expérience dans la gestion de ce genre de choses-là. Ils ont déjà plusieurs années de capacité humaine et technologique à protéger leurs gens, à les encadrer, assurer que leurs gens ne laissent pas des choses traîner sur leur bureau à la maison. Que leurs conjoints ou conjointes ou les enfants ne touchent pas à de l'information qui pourrait être sensible. Dans mon cas particulier, ma conjointe manipule l'information excessivement sensible. On est dans 2 pièces distinctes, portes fermées, pour justement qu'on n'ait pas la capacité d'entendre ce que l'autre dit. On est protégé, j'ai des écouteurs également elle aussi. Ce qui fait que dans ces conditions-là, je ne peux pas entendre aucune de ces conversations. Et c'est bien comme ça. Et sachez que pour beaucoup d'entre nous, en expert en sécurité du moins, on est dans un univers comme ça. Donc, pour faire excessivement attention, puis sachez que les logiciels de visioconférence qu'on utilise, puis Zoom, on va en parler plus tard, mais n'utilisez pas, s'il vous plaît. Mais les autres qui sont plus en très forte montée, Teams chez Microsoft, Google Hangout, Meet chez Google, ces logiciels-là sont faits pour isoler la voix humaine et aller extraire la voix humaine du bruit ambiant. Ce qui fait que si quelqu'un parle à travers la porte ou chuchote près de vous, il est très probable qu'on entende le contenu de sa conversation de cette personne parce qu'il y a des filtres qui sont faits expressément pour ça. Faites excessivement attention. On est dans un univers complètement nouveau. Explorez, soyez attentifs. C'est pas mal. Testez vos choses. Ne résistez pas au changement parce que on en a pour plusieurs semaines encore, c'est pas plusieurs mois. Donc, adhérez au changement qui se présente à vous. Mettez et propagez la nouvelle aussi. à vos familles, votre entourage, en tant qu'expert, c'est que toi, on est comme les points de référence, donc on doit beaucoup aider les gens et les amener à prendre des habitudes de vie TI de façon plus sécuritaire. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai eu une communication de l'école de mes enfants qui justement rappelait que, étant donné qu'on utilise énormément plus l'aspect virtuel, qu'on était beaucoup plus propice à tomber dans des pièges, d'être sollicité. Puis c'est un des éléments aussi qui, dans lequel je suis, le fait que tout ce monde-là, tout cet univers-là qui change autour de nous, nous amène à être à baisser un peu notre garde, à baisser un peu nos réflexes habituels qu'on a de méfiance par rapport à des sollicitations qui ne sont pas normales. L'un des meilleurs exemples, c'est qu'il y a eu une explosion de phishing associée au COVID, associée au télétravail, associée au VPN. Donc, il faut être un peu plus vigilant qu'à l'habituel parce que il y a des gens qui mettons, j'imagine, ont analysé la situation et ont réussi à mettre des messages pour nous tromper correctement. Puis d'être juste un peu plus vigilant à ça parce que s'il y a des requêtes pour le VPN, le télétravail, des choses comme ça qui sont pas lieu, pour nos enfants, puis nos enfants, pour les éduquer, pour les amener à comprendre la nature du risque dans lequel on est, qu'est-ce qui change, comment la vie va et tout ça. Donc, de réussir à peut-être réfléchir davantage à ce genre de choses-là et de communiquer à notre entourage ces choses-là aussi pour que tout le monde soit un peu plus sécuritaire par rapport à ce genre-là, j'ose. Étant capable de télétravail et des choses de cette nature, on va, pour plusieurs d'entre vous, en tout cas, moi, c'est mon cas, on travaille beaucoup en VPN, un peu en infonologique, mais après encore principalement en VPN, ce qui met beaucoup de pression sur les infrastructures de nos entreprises. Et ça change un peu la donne sur aussi comment les malveillants vont s'intéresser à ce qui se passe justement au niveau des VPN, entre autres, puis de l'infonologique. Il y a eu deux problèmes importants qui ont été déclarés dans les VPN depuis les dernières semaines. Le premier chez Apple. Au niveau des iOS 13.3 point quelque chose, jusqu'à 13.4, le VPN fuit. C'est-à-dire que lorsque vous montez votre VPN, autant vous voulez pas pour le travail ou que vous le faites pour de façon plus personnelle, protéger vos communications. Puis d'ailleurs, c'est parce que c'est justement ProtonVPN qui a soulevé la problématique. C'est que lorsque le VPN lève, normalement, le client VPN vient tuer toutes les connexions existantes pour les faire remonter à l'intérieur du VPN par la suite. Il y a un bug étrange avec ces versions de iOS, c'est que les connexions existantes ne sont pas tuées, ce qui continue à discuter en dehors du VPN et les nouvelles connexions passent à travers le VPN. Dans ce contexte-là, dans la zone perspective où on a une présomption que le VPN a levé et que nos communications sont protégées, cette présomption, elle est fausse. Il nous amène peut-être à prendre des décisions qui ne sont pas exactes. Dans ce cas-ci, je trouve très intéressant l'approche de ProtonVPN. Et by the way, j'en suis un consommateur. Je sais que Damien l'est également. Leur approche à la sécurité, elle est Edge, très intéressante. Si ça vous intéresse, je n'ai pas aucune part, on ne sort pas d'argent. Là. Perso, je trouve que c'est une très belle compagnie avec une très belle philosophie au niveau de la sécurité. Si vous avez un VPN à choisir, choisissez celui-là, tant qu'à moi, c'est un des meilleurs. Et d'ailleurs, dans le disclosure que ProtonVPN a fait, ils ont mentionné la façon de contourner le problème qui est généré par ces versions de iOS, c'est-à-dire de mettre en mode avion, ce qui vient tuer toutes les connexions automatiquement. Et je vais reprendre. Donc, activez le VPN de ProtonVPN ou le VPN que vous utilisez. Mettez en mode avion. Ressortez du mode avion. Normalement, dans le cas de ProtonVPN, lui va relever son canal VPN. Ce que ça a comme effet, c'est que ça vient tout tuer les connexions qui sont actives. Donc, couper tous les faits. Et automatiquement, une fois que le VPN relève et que les connexions relèvent, toutes les nouvelles connexions et tout ce qui existe passe à travers le VPN. Ça vient un peu corriger le problème. En espérant que Apple corrige dans 13.4.1, j'imagine, cette problématique-là, puisque on est dans un monde où maintenant tous les VPN sont le principal outil d'existence virtuelle que nous avons, qui nous relie avec nos employeurs, qui nous relie aussi, qui nous protège dans des contextes où on pourrait utiliser des réseaux Wi-Fi qui ne sont mal protégés. Mais par ailleurs, si vous respectez les règles et que vous ne sortez pas de chez vous, il est très peu probable que vous utilisiez un hotspot quelque part. Là. J'ose espérer que vous respectez encore ces choses-là parce que c'est quand même... consommation des hotspots va être pas mal à la baisse. Mais les réseaux domestiques sont quand même intéressants. Et cela, on va aussi regarder un peu la sécurité des réseaux résidentiels dans des épisodes qui s'en viennent, en tout cas du moins de la semi-recherche qu'on va, réactiver. Parce que depuis l'augmentation, l'explosion du télétravail, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la maison avec des appareils corporatifs et tout ça. Puis ça va être très intéressant de voir comment... le paysage du Wi-Fi s'est modifié dans les dernières semaines. Et en continuant sur les VPN, Microsoft a sorti de son... Microsoft a pris la peine d'informer des hôpitaux que leur gateway VPN était vulnérable à certains types d'attaques. C'est une très bonne chose. Je trouve que... autant on pouvait pas être content en tant qu'expert de sécurité sur Microsoft il y a longtemps, dans le temps de NT4, je trouve ça très, très bien qu'ils prennent la peine d'utiliser maintenant leur force de marché pour aider leur entourage, aider donc dans ce cas-ci les hôpitaux, à les informer que leur VPN est compromis ou est en problème. Surtout en considérant que dans un contexte de pandémie, les prestataires de services de santé, dont les hôpitaux en font partie, sont des éléments clés à nous aider à travers à passer cette pandémie-là. Ce serait malheureux que ceux-ci, leur système informatique, soit pénalisé et donc qu'ils viennent à pénaliser la santé des gens qui pourraient être en détresse pendant ce genre de choses. On l'a vu dans certains groupes criminalisés, ils n'ont pas tellement de scrupules par rapport à ce genre de choses-là. Malheureusement, d'un côté, ils disent qu'ils font attention, mais de l'autre côté, ils viennent les extorquer. Donc, c'est un peu sale comme approche, mais dans ce cas-ci, s'il y en a d'autres entreprises qui sont au courant, d'autres majeurs de techno, par exemple, comme Cisco, Juniper, Fortinet, qui sont tous des revendeurs de produits, mais des fabricants de produits VPN, qui puissent trouver, déceler chez leurs clients, qui ont des versions qui sont vulnérables, les amener à corriger, à rehausser, c'est une très bonne chose parce que on repose énormément sur ce genre de fonctionnement-là maintenant. Donc, si c'est notre l'appui même de notre télétravail n'est pas plus sécuritaire que ça, c'est un sérieux problème. Puis, ça ne nous aidera pas à construire dans le chemin dans lequel on se dirige. Nouvelle suivante. On avait discuté déjà sur le podcast quelques temps, l'année passée. Zoom. Avec l'explosion du télétravail, Zoom est redevenu à l'avant-plan parce que, les compagnies vont massivement utiliser ce produit-là pour faire du télétravail. La compagnie, à l'époque, l'analyse qu'on avait faite, Patrick et moi, on avait été un peu choqués par le traitement un peu désinvolte qu'il y avait eu d'une vulnérabilité qui avait été découverte sur le macOS qui permettait essentiellement à travers une page malicieuse, d'activer l'enregistrement sur un poste sans la connaissance de la personne. Donc, essentiellement, ça donnait la capacité aux gens d'espionner sans que la personne le sache. C'est assez dommageable parce que, surtout généralement dans notre vie, soit quotidienne, soit au bureau, on parle librement dans la présomption que personne qui nous écoute ou que les personnes qui nous écoutent sont légitimés à écouter ce qu'on dit. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Fait que de ce fait-là, entre autres, on a abandonné la plateforme en tant que plateforme d'enregistrement pour le podcast. C'est une situation un peu malheureuse, mais gars, c'est faut être cohérent face à ce qu'on prêche. Et là, avec l'explosion qui a eu lieu, il y a eu plusieurs éléments très importants qui sont apparus au niveau de comment Zoom traite la sécurité dans ces choses. Et personnellement, j'ai eu certaines analyses à faire et un des points qui, pour moi, avait été le plus dérangeant au niveau de Zoom, c'est que sur leur site, il n'y a aucune politique de confidentialité claire qui nous permet de comprendre comment leur produit fonctionne. Et là, tout le problème s'accentue sur le fait que le FBI a a fait un énoncé comme quoi les vulnérabilités de Zoom ne sont pas réglées, autant sur PC que sur Mac maintenant, parce qu'il y en a là dans les deux univers, qui sont assez critiques par ailleurs comme vulnérabilité, ce qui fait que on ne peut pas garantir la confidentialité des communications de par ces vulnérabilités-là qui ont été découvertes. C'est assez important. On peut du vol de compte utilisateur, on peut. C'est fou la quantité de problèmes qu'ils ont trouvés. Puis si ils ont mal géré l'an passé la situation, puis si maintenant, face à une situation dans laquelle on l'expose comme ça, ça veut dire que les habitudes de sécurité de la compagnie ne se sont pas améliorées depuis un an. Ils sont restés dans le même état où ultimement, d'apparence, ils s'en foutent un peu. Puis ils ont dû, jusqu'à ce point-ci, le propriétaire, le CEO, pour dire, parce que c'est pas la même chose, mais en tout cas, le CEO a dû faire un statement public pour dire que maintenant, pendant les trois prochains mois, Zoom va se concentrer sur la sécurité. Donc, ils ne font que réagir à posteriori à une situation qui les montre publiquement à quel point ils n'étaient pas présents dans la réflexion. C'est-à-dire que les designs fondamentaux de la solution ne tiennent pas compte de la sécurité. Puis d'ailleurs, dans les éléments qui ont été soulevés, c'est que le chiffrement bout en bout qu'on peut retrouver dans d'autres solutions, que je vous laisserai chercher, n'existe pas en Zoom, ce qui permet, puis la présomption que j'ai fait mon analyse puis qui a été corroborée par les différents articles et analyses, c'est que Zoom a la capacité d'écouter le contenu de ce qu'on dit. Et je ne sais pas jusqu'à quel point, quand que la nouvelle est sortie, sur le fait qu'ils revendaient de l'information à Facebook, à quel point ils pouvaient écouter le contenu de ce qu'on disait et le revendre à Facebook par après. Fait que ceci est un peu épeurant en tant qu'invasion de la vie privée. Je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui vont discuter des choses très privées à travers ces éléments-là. Donc, prenez le temps, si vous choisissez une solution de visio, parce que là, on est tous dans cette réflexion-là, prenez le temps de voir comment la compagnie traite avec le sérieux que la compagnie traite la sécurité. Parce que vous faites reposer des choses, des présomptions qu'on a avec les lignes téléphoniques conventionnelles, parce que le code criminel au Canada met la présomption de vie privée, ce qui fait que c'est illégal et criminel d'écouter sur une ligne non autorisée. Aux États-Unis, les lois sont un peu plus différentes. Puis en Europe, j'ai aucune idée, j'ai aucune connaissance du cadre légal européen, mais j'imagine que c'est égal ou si c'est pas supérieur. Donc, c'est un peu ces présomptions-là qui sont dans cet univers-là. C'est un peu malheureux parce que c'est quand même un bon produit à l'usage, mais pas une approche très compatible avec le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, surtout qu'ils vendent l'information à Facebook, fait que leur modèle d'affaires est encore plus particulier. Puis c'est un autre appel aussi que si vous utilisez des produits qui sont gratuits, Zoom m'offre, que je pense, c'est 40 minutes de conversation gratuite, il est très probable que vous soyez le produit. C'est probablement vos informations qui sont relayées. Et d'ailleurs aussi, puis on me l'a rapporté par plusieurs personnes sur plusieurs plateformes, fait que je suis pas capable d'évaluer parce que je ne m'y connais pas nécessairement énormément dans ce genre de ces plateformes-là, mais qu'il y a des conversations qui ont lieu entre des personnes et que si on retrouve sur Facebook, par exemple, des publicités relatives à ces éléments-là. Est-ce que d'autres compagnies vendent les informations en Facebook? Est-ce que d'autres compagnies vendent leur contenu audio, vidéo, chat à Facebook ou à un réseau organisé de publicité? C'est des questions qu'il faudra se poser parce que là, on est exposé dans un contexte nouveau qu'il va falloir peut-être réévaluer un petit peu la situation parce que c'est comme un peu bizarre parce qu'on est vraiment exposé. On a vraiment trop de temps pour regarder ce genre de choses-là. Donc, cela étant, peut-être qu'on c'est le temps de se poser bonnes questions. Le temps qu'on maintenant qu'on est à la maison, on a peut-être un peu moins de choses à faire pour certaines personnes. Donc, nouvelle suivante, Marriott, encore une brèche d'informations de consommateurs. Fait que ce sont encore des nouvelles. Je n'irai pas dans la profondeur de cette nouvelle-là. C'est encore un peu triste de constater que des compagnies sont dans cet état-là, qui continuent à traiter la sécurité avec ce degré de désinvolture-là, avec le peu d'informations, d'un peu de sérieux. Surtout Marriott qui a déjà été attaqué une première fois, là, sérieux, faites quelque chose. Puis c'est un rappel aussi pour les autres compagnies La sécurité, c'est très sérieux maintenant dans un monde en plus que de télétravail de massif et de gens qui sont aussi qui n'ont plus de travail ou moins de travail. Ça fait beaucoup de gens oisifs. Ça fait beaucoup de gens avec des outils technologiques dans les mains qui vont nécessairement tester la sécurité de vos infrastructures, que ce soit légal ou non. Quand on a trop de temps, quand on a des... Un dicton, là, c'est l'oisivité et la malle sous les vis. Le fait que les gens ont trop de temps, que les adolescents ont trop de temps, que les jeunes ont trop de temps, pas qu'ils sont malicieux, mais ils vont utiliser ce temps-là pour aller tester les choses par curiosité, même si c'est pas légal. Donc, ne faites-vous pas prendre ce genre de choses-là, parce qu'il y a de l'argent à faire avec ces choses-là. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont au courant qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Puis, considérant que les gens sont dans des situations où ils ont perdu leur emploi, travaillent moins, ils ont des problèmes d'argent, il pourrait y avoir un aspect où les gens seraient tentés à utiliser l'information qu'ils auraient trouvée par parce qu'ils ont trop de temps disponible pour contre vous et pour se faire de l'argent. Donc, c'est un rappel encore plus sévère que c'est le temps de sécuriser, de ne pas prendre de raccourcis. Pas parce qu'on est en pandémie qu'il faut prendre des raccourcis au niveau de sécurité, puis même si pour faire plus attention, il faut en prendre. Pour faire plus attention à la sécurité. Donc, assurez-vous que toutes vos décisions sont éclairées, que vous ne prenez pas de raccourcis parce que ça va venir vous mordre. Et c'est un cas-ci, ça ne prendra pas 6 ans avant de vous mordre, ça pourra en prendre juste 6 semaines. Donc, c'est un peu embarrassant. Puis déjà que les compagnies ne vont pas très bien à cause de la situation. Ne mettez pas votre entreprise à risque, s'il vous plaît. Et dernière nouvelle, Microsoft retarde la désactivation de TLS 1 et 1.1 dans ses navigateurs. Cette décision-là, elle est sage et pas, parce que il faut en même temps obliger les entreprises à rehausser le niveau, parce que les deux protocoles qui sont maintenant déclarés non sécuritaires, maintenant c'est du 1.2 qui est le minimum sécuritaire. Donc, en entreprise, dépêchez-vous à mettre à jour, mettez aux dernières versions d'un côté, puis de l'autre, je suis mitigé par rapport à la décision de Microsoft, parce que si on n'impose pas aux compagnies d'aller vite, généralement, ils ne mettront pas l'énergie nécessaire pour sécuriser l'infrastructure. Donc, c'est à voir comment on aborde ce genre de choses-là. Donc, ça termine pas mal l'épisode, peut-être un peu plus court, parce que je suis tout seul, fait que j'ai une limite à ce que je peux chialer, je peux rapporter comme nouvelle. On va en train d'envisager, pour ceux qui ont participé au live, de commencer à faire des lives beaucoup plus réguliers, ce qui nous permet d'avoir l'interaction, ce que personnellement j'ai beaucoup aimé. On va mettre tout ça à des heures qui sont beaucoup plus compatibles avec nos amis en Europe, parce que c'est sûr qu'à 8 heures le soir, c'est une heure un peu lointaine pour les Européens. On va peut-être ramener ça à 14 heures, heure du Québec, le week-end, ou est-ce qu'on va voir ce qu'on peut faire, parce que maintenant, tout le temps de travail fait qu'on n'a plus les mêmes contraintes. On ramène ça beaucoup plus tôt la journée pour permettre à une diffusion simultanée en Europe et au Canada pour que les gens puissent y participer en plus grand nombre. Donc, ça complète. Bonne semaine!